Bonjour et bienvenue dans cette cinquième capsule, je crois, cinq ou six,
Cinq, je crois.
cinq, hein, de l'économie expliquée par mon père et par le directeur aux affaires financières qui aujourd'hui, de dépit, a décidé de se coucher après nous avoir embêtés pendant à peu près 20 minutes. Donc aujourd'hui, il a l'air plutôt calme. Nous allons essayer de parler du sujet que nous n'avons pas traité la semaine dernière, qui était l'inflation. Alors, la chose qu'il va falloir retenir sur l'inflation, qui a cours aujourd'hui, c'est que nous avons une inflation qui a migré. Nous ne sommes plus dans une inflation sur les produits courants, comme certains d'entre nous ont pu connaître dans les années 70. C'est-à-dire, moi, je me souviens de ma tante me disant, mais tu te rends compte, bientôt le prix du lait va être plus cher que le prix de l'essence. Et on a vu. Et alors qu'aujourd'hui, on a justement une inflation à cause de la croissance de la masse monétaire qui a migré vers les produits pas de luxe, mais en tout cas les biens immobiliers, ainsi de suite. Donc c'est cela dont tu vas nous parler en
Je vais
prime,
parler beaucoup de
c'est-à-dire
ça.
la différence de cette inflation qui a migré vers une autre sorte
D'inflation.
d'inflation. Voilà. Donc commençons sur cette sorte de... C'est-à-dire la migration, l'inflation du début, celle des années 70.
L'inflation du début, c'était une inflation des prix de détail. Alors, avant de revenir aux différentes sortes d'inflation, je crois qu'il faut bien expliquer aux gens ce que c'est que l'inflation. Les gens vous disent, c'est une hausse des prix. Mais en fait, quand vous réfléchissez, c'est une grosse bêtise. En fait, c'est une baisse de la monnaie. C'est-à-dire la valeur de la monnaie baisse. Vous achetez avec la même quantité de monnaie de moins en moins de trucs. C'est ça l'inflation. Donc il faut pas. Et la deuxième question qu'on doit se poser, c'est OK, si la valeur de la monnaie baisse, à qui le crime profite-t-il? Parce que ça paraît évident, quoi. Eh ben, en général, ça profite à celui qui s'est endetté. Parce que ben, du coup, sa dette sera plus facile et à servir et à payer, parce qu'il paye de plus en plus en monnaie de singe. Et si je demande à l'auditeur attentif et studieux, dont j'espère qu'ils sont tous attentifs et studieux, qui est la personne morale la plus endettée dans notre monde aujourd'hui? Vous n'allez pas le croire, mais c'est l'État. Donc, grosso modo, l'État a accumulé des dettes monstrueuses qui ont été achetées en partie par le pauvre épargnant français.
Ça, c'est aujourd'hui.
Ça, c'est
Là, t'es plus
aujourd'hui,
dans les années
c'est
soixante-dix.
d'aujourd'hui, mais qui ont été achetées et il essaye de payer en monnaie de singe. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu ça le but. Le but, c'est pour celui qui s'est endetté, dans le fond, de ne pas rembourser la valeur égale de ce qu'il a remboursé. C'est un peu ça. Bon, ça, c'est donc le premier truc. Alors, maintenant, venons-en un petit peu à la théorie économique. Et comme le disait, je crois, Confucius, il disait, quand les mots changent de sens, les royaumes deviennent ingouvernables. C'est-à-dire que le but, par exemple, dans la civilisation aujourd'hui, on est en train de faire changer le sens des mots pour que plus personne n'y comprenne plus rien, quoi. Ça, démocratie, ça ne veut pas dire démocratie. Qu'un libéralisme, ça ne veut pas dire libéralisme. Enfin bref, on a changé le sens de tous les mots et du coup, plus personne, une chatte, il retrouvait pas ses petits. Donc l'inflation, au départ, dans la théorie économique, c'était la hausse de la quantité de monnaie par rapport à la quantité de production. C'est-à-dire, on a expliqué ça dans le passé. Et donc l'inflation, c'était dans le fond produire trop d'argent, trop de numéraires, trop de voilà, c'était ça. L'inflation, c'était la hausse de la quantité de monnaie et ça avait comme conséquence une hausse des prix ou une baisse de la valeur de la monnaie, comme vous voulez. Mais enfin, c'est pareil.
Enfin, pour l'acheteur, ça voulait dire qu'avec le même, avec tes
Il
mêmes,
achetait moins de pain, il
avec ton
achetait.
même 150 francs, tu avais moins de choses dans ton caddie.
Tu avais moins de choses dans ton caddie. C'était exactement ça. Donc la hausse de la quantité de monnaie entraînait une hausse des prix. C'était un truc qui était bien compris par à peu près tout le monde. Celui qui a le mieux réfléchi, probablement dans l'histoire économique, sur les phénomènes d'inflation, ça a sans doute été Milton Friedman, qui a passé sa vie qui a eu le prix Nobel pour quelque chose qui s'appelle l'histoire monétaire des États-Unis, qu'il a fait avec Anna Schwartz, qui est
Je souris parce que avant que tu dises la personne qui, je me suis dit ça va être Milton Friedman. Et je pense que tout le monde ici a pensé ça va être Milton Friedman. Donc,
voilà,
je
souris. Parce que c'était,
non,
son,
non, mais...
c'était son
non, sujet c'était de la monnaie. C'était, donc, bien sûr, bien
c'était
sûr.
Un monétariste, c'est lui-même qui a inventé quasiment la notion. Donc c'était un homme tout à fait éminent là-dedans. Il avait publié une histoire monétaire des États-Unis qui doit faire 1500 pages et que si des problèmes, si des gens ont des problèmes d'endormissement, ils devraient lire parce que c'est. Mais il a été remonté toutes les masses monétaires, il a fait un travail de bénédictin, bref, c'était un travail remarquable. Et alors il dit toujours, et là il faut que l'auditeur s'accroche un peu, il dit toujours, toute hausse des prix dans l'histoire, que maintenant on appelle inflation, c'est là un mot qui a changé de sens, hein, toute hausse des prix dans l'histoire, toute inflation si on emploie le grage d'aujourd'hui, a toujours été précédée par une très forte hausse de la masse monétaire.
D'accord.
Ce qui est vrai. Mais toutes les fortes hausses de la masse monétaire n'ont pas conduit à des hausses de prix. C'est-à-dire, c'est comme il faut un vélo pour gagner le Tour de France, mais si on a un vélo, ça ne veut pas dire qu'on va le gagner. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et donc, voilà. Donc, c'est déjà le premier truc. Et aujourd'hui, il y a des tas de gens qui disent, regardez la hausse des prix. On a eu une hausse de la masse monétaire phénoménale depuis 10 ans. Et on n'a pas eu de hausse des prix.
Non, du lait, du beurre,
etc. On n'en a pas eu des basses. Et donc, on peut continuer à imprimer de la monnaie, ça n'a aucune importance. Mais ce que disait Milton Friedman, encore une fois, qui était un esprit subtil, pardon, qui était un esprit subtil, c'était que la hausse des prix, les prix qui montent, ce ne sont pas toujours les mêmes. Alors, dans les années 70, on avait par exemple quelque chose qui était l'indexation des prix sur des salaires sur les prix. C'est-à-dire que si l'inflation montait de 5%, si, je veux dire si les prix montaient de 5%, ben, les salaires montaient de 5%. C'était automatique, c'était ce qu'on appelait une avancée sociale. Hein, Et donc, chaque fois que les prix montaient, les salaires montaient, donc les entreprises montaient leurs prix, et bon... Et puis ce lien automatique entre les salaires et les prix a été cassé dans les années 80. On a cassé tout ça, et à ce moment-là, ça s'est rompu, ce lien. Donc il n'y a plus une forme automatique de si les prix montent, les salaires montent, qui fait monter les prix, qui fait monter. Vous voyez, c'était là. Et aujourd'hui, vous avez des prix, les prix de détail, bon, le prix du lait, et puis vous avez le prix des actifs. Alors, les actifs, c'est des biens que vous allez consommer sur le très long terme. Par exemple, l'immobilier. Mais vous voyez bien aujourd'hui que depuis 20 ans ou 30 ans, vous avez une hausse de l'immobilier absolument phénoménale. Plus un garçon, plus une famille ne peut se loger à Paris, sauf si ils ont eu la chance d'avoir... Un grand-père qui leur a laissé un appartement, quoi. C'est à peu près ça, parce qu'il ne peut plus...
Bah, c'est ce dont on parlait hier avec Anis Lentjev, donc, dont vous verrez l'entretien dans pas longtemps. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on s'endettait, en 15 ans, on avait son appartement à Paris 15e. Maintenant, il faut s'endetter sur 30 ans, certes avec des taux zéro, mais pour avoir un 40 mètres carrés dans le 20e. Donc,
en fait,
est-ce qu'il y a un accroissement de la valeur pour autant pour le particulier? Non. On met plus de temps, certes les taux sont à zéro, mais on met plus de temps pour acheter, pour acquérir toute sa vie un bien.
Le prix de l'immobilier est monté beaucoup plus que la baisse des taux d'intérêt.
Voilà.
Et vous achetez moins en dépensant plus. C'est-à-dire que le remboursement du capital devient de plus en plus extraordinaire. Donc, ce que vous avez aujourd'hui, c'est que vous avez, si je devais faire une espèce de typologie historique de l'inflation depuis 50 ans, qui a été à peu près ma carrière, vous avez de la première, c'était l'inflation des prix de détail dans les années 70, qui a été cassée par les politiques monétaires qui venaient toutes d'ailleurs, qui étaient inspirées par Milton Friedman. Ça s'est complètement arrêté. Et puis, pendant 20 ans, on a eu une politique monétaire raisonnable avec Volcker d'abord et ensuite Greenspan. Puis, il y a un homme qui est arrivé qui s'appelait Bernanke, qui est devenu le président de la Réserve fédérale, et qui a repris les erreurs du passé en mettant des taux d'intérêt très bas, ce qui a déclenché une inflation des actifs, c'est-à-dire de la bourse en particulier, et de l'immobilier. La hausse de l'immobilier, il y a eu un crack en 2008-2009, dont vous vous souvenez, mais ça a repris derrière, parce qu'ils ont recommencé les mêmes bêtises, même en les accélérant. Donc, hausse de l'immobilier, hausse de la bourse. Et maintenant, nous sommes, avec le Covid, dans la troisième grande impression monétaire. Vous avez, pour résumer, on a eu trop de monnaie dans les années 70, parce que les États-Unis voulaient financer à la fois leurs programmes sociaux et la guerre du Vietnam. C'est ce qu'on appelait « guns and butter ». On veut y voler à la fois des canons et, du beurre. Bon, ça s'est arrêté. Ensuite, on a eu l'inflation des actifs avec M. Bernanke. C'est la bourse qui a monté comme une fusée, etc. Et maintenant, on a beaucoup monté à cause du Covid. Vous l'avez vu en France, par exemple. D'un seul coup, il y avait plein de pognon partout. La Banque centrale a imprimé du pognon. Et là, on n'a pas encore eu la répercussion sur les prix de cette hausse du Covid. C'est quelque chose, parce qu'en principe, il faut à peu près 2 ans, vous commencez à imprimer du pognon, et 2 ans après, ça commence à changer. Il faut 2 ans pour que
le cycle arrive à terme.
Pour que le pognon passe dans la vie réelle, quoi. Ça met un temps fou, les gens prennent garde aux habitudes. Il faut à peu près 2 ans. Et là, c'est une réflexion prospective que je vais faire. Je suis pas, bien entendu, c'est dangereux parce que je me risque à peut-être faire un pronostic là. C'est que vous avez eu 2 sortes de pays dans le monde avec le Covid. Vous avez eu ceux qui ont monétisé le Covid. Bon, ben, l'Europe, les États-Unis ont monétisé le Covid. Ils ont fait marcher la planche à billets comme des fous. Puis vous avez eu plein de pays en Asie qui ont refusé de monétiser le Covid sous le leadership de la Chine. Et ces pays, donc, ben, grosso modo, ils ont dit, ben non, nous, Covid ou pas Covid, on va maintenir une politique monétaire de bonne qualité, on va pas imprimer, les taux d'intérêt vont rester à 3%, il n'y a pas de... Et donc, si je fais mon analyse, le prix qui devrait baisser maintenant fortement, c'est le prix de nos monnaies.
Notre monnaie face à une autre monnaie.
Par exemple, si j'ai raison...
L'euro face au franc suisse, l'euro face à la couronne suédoise.
L'euro face à la couronne, mais surtout l'euro par rapport à toutes les monnaies asiatiques. C'est-à-dire que logiquement, ce qui devrait se passer, c'est que c'est le prix des biens et des services qu'on va acheter en Asie qui va monter très fort. C'est-à-dire que, ben, je ne sais pas, mais la quasi-totalité des matières premières pour les médicaments sont faites en Inde ou en Chine. Bon, ben, il est certain qu'on va se retrouver probablement avec des hausses de prix phénoménales de ces matières premières pour faire des médicaments en Europe, quoi. Puisque c'est eux qui font le...
Sachant que déjà en Europe, les gens ne se rendent pas compte, mais on ne paye pas le prix du médicament à son prix réel.
Réel, non.
Les États-Unis, on les paye après... Les Américains payent leurs médicaments à prix réel, indépendamment de l'impact de la Sécu. En France, nos médicaments sont vraiment peu chers.
Peu chers, sont subventionnés, parce qu'une grosse partie des frais de recherche sont faits aux États-Unis. Et ensuite, ils gagnent de l'argent à la marge sur ce qui se fait en Europe. Mais ça, donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le premier prix qui a bougé, les prix de détail, dans les années 70. Deuxième prix qui a bougé, mettons le marché des actions, en France, partout, qui double. Hein, donc. Pour revenir à ma célèbre action Air Liquide.
Celle-là même ?
Toujours la même. Ben, si vous voulez, grosso modo, il faut 3 fois plus d'argent aujourd'hui pour acheter Air Liquide qu'il y a 10 ans. Quoi. Alors, elle a été très bien gérée, elle est montée pour des bonnes raisons, mais il y a une partie de cette hausse qui est due à de l'inflation.
Oui, c'est ce qu'on voit aussi sur un sac Hermès.
Voilà, le sac Hermès en crocodile.
Il a pris 1 zéro de plus. Il est passé de francs à euros, plus 1 zéro de plus. C'est un carré Hermès qui allait valoir 600 francs vaut aujourd'hui 600 euros. De passage francs à euros...
Voilà, c'est comme la baguette de pain qui est passée d'un franc à 1 euro. Boum, c'est ce qui était... Donc, grosso modo, ça a été la deuxième vague de hausse, le prix des actifs, le prix de l'immobilier à Paris. Et je crois que la troisième vague de hausse, ce sera pour les gars qui veulent aller passer leurs vacances en Thaïlande. Ils pourront plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer si j'ai raison? C'est l'État, ils viendront passer leurs vacances à Venise, parce que leur monnaie sera beaucoup montée. Et nous, eh ben, on ira passer nos vacances dans la Creuse, quoi.
Et alors, parce que des pays comme la Thaïlande, structurellement, dans les années 2000 et plus, faisaient exprès de maintenir des monnaies très basses. Est-ce qu'ils ne vont pas refaire le coup encore?
Ben,
doper
ils ont pas...
leurs exports?
Ben, d'abord, ils vont avoir du mal, parce que s'ils maintiennent leur monnaie très basse, ils vont continuer à nous vendre des trucs. Et comment on va les payer, ces trucs? En leur envoyant des bouts de papier. Est-ce qu'à un moment, ils vont dire, écoutez, vous êtes gentils, mais moi j'en ai marre d'échanger du travail de bonne qualité en Thaïlande pour un bout de papier avec lequel je ne peux rien acheter en Europe, quoi. Donc automatiquement, ben, les monnaies vont monter, quoi. Et puis en plus, toute l'épargne européenne va se dire, mais qu'est-ce que je fous en Europe? Et va aller s'investir dans ces pays-là. Donc ça aussi, ça va faire monter les monnaies, il va y avoir un transfert. Grosso modo, si la quantité du yuan, qui est la monnaie chinoise, reste la même, et la quantité de dollars ou d'euros double, à un moment ou à un autre, vous vous dites, il va y avoir un effet de passage de l'un à l'autre, quoi.
C'est mathématique.
C'est presque automatique. Vous savez pas de combien, vous savez pas quand ça va se passer, mais vous savez que c'est très difficile que ça ne se passe pas, quoi. Donc on va avoir un appauvrissement en termes relatifs terrible de l'Europe et des États-Unis vis-à-vis de l'Asie. C'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de... À la fin des années 90, vous avez une énorme crise asiatique où la Corée avait fait faillite, vous avez fait tout ça, et on avait eu ce qu'on avait appelé le choc asiatique, où toutes les monnaies s'étaient écroulées avec le FMI qui allait là-bas. Mais on va avoir un contre-choc asiatique, c'est-à-dire que les monnaies vont remonter là où elles étaient avant, et que donc tous les produits qu'on achète chez eux vont devenir beaucoup plus chers.
Plus chers pour nous.
Pour nous. Et là, ben, on le verra dans le prix des produits importés, on le verra dans le prix des...
Alors,
et du coup, ils paieront moins pour leur pétrole aussi.
Est-ce qu'on ne peut pas positiver en se disant, bon, si leur pays redeviennent... leurs produits redeviennent trop chers, on va peut-être se remettre à fabriquer, parce que du coup, on va redevenir compétitif.
Tout à fait, tout
à nos
à fait.
Propres yeux. Est-ce qu'on ne va pas pouvoir, d'un coup, recommencer à faire des iPhones, que ça vaille le coup, recommencer à faire des répétos, que ça vaille le coup, des
pas,
t-shirts?
C'est pas complètement impossible. Et en effet, une dévaluation, logiquement, ça déclenche une baisse des importations et une hausse des exportations, c'est-à-dire un renversement de la balance commerciale.
Enfin, pour ça, il faudrait que nos entrepreneurs puissent avoir accès au capital. Or, les taux zéro fait...
D'abord, il y a ça, et
deuxièmement, c'est une mauvaise
allocation du capital. Et deuxièmement, il faut qu'on cesse en Europe de payer les gens à ne rien foutre.
Oui, alors là, on est dans...
Pour l'instant, on les paye, mais on ne produit rien. Il faudrait qu'ils se mettent à produire quelque chose. Alors, on peut espérer peut-être que les capitalistes chinois vont venir faire des usines en France pour aller exporter en Chine.
Oui, mais alors là, t'es chinois, tu vas mettre une usine en Allemagne,
ben
tu as un droit du travail beaucoup moins abruti,
bien sûr.
Tu as le temps de travail est plus grand.
On est plus tranquille.
On est plus tranquille.
Et on est respecté en tant qu'investisseur.
En France, tu te prends toutes les masses salariales, des grèves tous les deux jours.
Et des systèmes, et à 61%. Du PIB qui est sous le contrôle de l'État, qu'on le veuille ou non, les fonctionnaires, enfin les gens qui travaillent dans le secteur public, large, le fonctionnaire, mettons, il produit, il travaille bien, c'est un type sérieux, il est diligent, il fait ce qu'on lui demande, enfin tout ce que... J'ai aucun problème avec eux, mais ils ne produisent rien pour l'exportation. Donc le fait que notre monnaie baisse, on a 61% de notre...
Qui est une masse fixe.
Donc, les 30 ou 40% qui nous restent, il faudrait vraiment qu'ils se développent comme des fous pour que ça ait un impact sur les 60%. Quoi. Donc, je crois que on est dans une troisième vague d'inflation qui se passera cette fois-ci beaucoup plus par l'intermédiaire du marché d'échange, c'est-à-dire qu'on verra des monnaies monter très fortement. Ce que je veux dire, c'est que si on produit trop de monnaie...
Mais on a produit trop de
monnaie. On a produit trop de monnaie, c'est certain. Quand on a produit trop de monnaie, cette monnaie ne va pas toujours au même endroit. Elle peut aller une fois dans les prix de détail, changements.
Explique aux gens, parce que c'est intéressant, ça se mesure. En fait, il y a cette chose qu'on appelle la vélocité
de la monnaie.
Ça se mesure, il y a des analyses, c'est-à-dire on arrive à voir quelque part à quelle vitesse tourne une monnaie, un peu comme un circuit dans lequel vous mettriez de l'eau, et vous voyez... Vous savez, dans les petits tubes, comment tourne quand vous buvez dans une paille, à quelle vitesse ça tourne. La monnaie, ça se calcule aussi, et vous pouvez voir à quelle vitesse une monnaie tourne. Et quelquefois, dans des systèmes, on se dit, tiens, on a injecté beaucoup, ça devrait... En fait, pas du tout, parce que les gens le mettent dans leur matelas. Donc, c'est aussi basé sur la confiance,
la vitesse de circulation
de la monnaie, c'est quelque chose d'instinctif et qui n'est pas pareil d'un pays à l'autre.
Qui peut être différent, par exemple... Oui, et la vitesse de circulation de la monnaie, c'est un peu la folle du logis, c'est ce que les économistes... Si les gens ont la trouille, ils vont garder leur monnaie, la monnaie arrête de bouger. Si les gens cessent d'avoir la trouille, ils vont utiliser leur monnaie. Alors là, ils viennent mettre plein de monnaie dans le système. Et pour l'instant, les gens ont eu la trouille. Ils ont tout fait pour qu'ils aient la trouille. Donc, elle est restée dans les matelas. Mais s'ils commencent à avoir moins la trouille, la monnaie va commencer à sortir des matelas. Et à ce moment-là, comme il y a eu trop de monnaie, c'est peut-être là aussi qu'une inflation des prix va se produire. Donc, tant que les gens ont la trouille, la monnaie reste là. Mais dès qu'elle se met à bouger, c'est un peu un trouillomètre, la vitesse de circulation de la monnaie.
Là, les gens ont eu la trouille et au-delà de ça, les gens disent « Mais oui, mais enfin, dans quoi je vais dépenser ? Je ne peux pas organiser une fête de mariage, je ne peux pas organiser un voyage parce que je vais être enquiquiné avec des tests PCR, là, 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 ou dans quel pays j'irai quand bien même, je n'aurai pas le droit d'eux. » Donc, les gens disent «
Je peux y aller, mais je ne peux plus revenir. » »«
Je ne peux plus revenir, donc c'est une histoire sans fin. »
Donc on a bloqué, quelque part, on a bloqué la vitesse de circulation de la monnaie. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir revenir à la réalité, que les gens puissent se balader, et on le verra à ce moment-là immédiatement, par des pénuries. Et on commence à le voir aux États-Unis, où il commence à sortir le fric.
T'as une bouteille d'eau, si tu veux.
Merci beaucoup. Il y a des engorgements dans les ports américains extraordinaires. Parce que les usines n'ont pas vraiment rouvert aux États-Unis, ou un peu. Mais, par exemple, il y a des pénuries monstrueuses de semi-conducteurs pour faire des bagnoles.
Oui, on l'avait vu avec les batteries.
On l'avait vu avec les batteries, avec la batterie dans ma voiture, etc. Donc vous avez des engorgements parce que, il faut faire redémarrer le système, il n'y a plus de stock, et donc, il va falloir... Et vous avez les ports américains qui sont embouteillés, on ne trouve pas un chauffeur de camion pour envoyer, pour prendre le camion et amener les biens. Donc vous avez des pénuries partout. Et ton frère qui vit au Canada, il est en train de faire un développement d'une maison pour lui. Eh bien, il a acheté le bois pour faire le premier plancher, le premier étage de sa maison. Je crois qu'il a payé 30 000 dollars. Et 3 mois après, pour faire le deuxième étage, ça lui coûte plus de 60 000 dollars.
Ah oui.
Donc,
c'est énervant, ça.
Le prix du bois, le prix du bois a doublé.
A doublé.
Et alors, le pauvre promoteur immobilier qui lui fait sa maison...
S'était engagé sur des prix à 30 000, j'imagine.
À 30 000, il est venu voir ton frère en disant, écoutez, je suis désolé, mais alors là, le coût du bois qui double, ça ne s'est jamais passé.
Bah oui, non, c'est
et
dur.
Donc,
il
et donc,
il explique le risque.
Il explique le risque, ils ont expliqué, mais... Donc vous commencez à avoir des pénuries partout, et là je voudrais rajouter quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec l'inflation, c'est qu'une récession, ça se passe en général, quand les entreprises ont trop produit et qu'elles se retrouvent avec des stocks monstrueux. Donc elles ont trop produit, elles ont produit trop de voitures, etc., il y a trop de stocks, donc il faut écouler les stocks, et donc il faut couper la production, il faut mettre les gens, pendant qu'on écoule les stocks, il faut mettre les gens à la porte, c'est ça une récession. Et à ce moment-là, ce que faisaient les gouvernements dans le temps, c'est qu'ils coupaient les taux d'intérêt pour relancer la demande, en quelque sorte, et ils filaient du pognon aux gens pour qu'ils achètent les voitures qui étaient en stock. Voilà, c'était très habituel. Là, ils ont coupé les taux d'intérêt, ils ont filé du pognon aux gens, et il n'y a pas de stock. Et donc
la relance par la consommation, ça va être difficile là, dans leur histoire.
Ça va relancer la production en Chine et partout où ils ont des usines. Donc, mais toute l'Asie, qui est maintenant l'usine du monde, va devoir travailler pour refaire des stocks aux États-Unis, en Europe. Et donc, leurs balances excédentaires vont être monstrueuses.
Ouais, monstrueuses, gigantesques. Alors, le risque, c'est qu'au bout d'un moment, ils disent, les gars, c'est gentil, mais nous, vos jeux d'écriture...
Payez-nous avec un vrai truc.
Voilà, de l'or.
De l'or, notre monnaie. Mais la vôtre, on n'en veut plus.
Le dollar ou l'euro, on n'en veut pas des masses.
On n'en veut pas des masses.
Ou alors on en veut plus.
On en voudra beaucoup plus. On va augmenter le prix de 15 ou 20%. Donc c'est par là que va passer l'inflation cette fois-ci. C'est par.
Et cette hausse du prix au détail va être répercutée sur le consommateur.
Exactement.
On pourrait voir une hausse des écrans plasma, de nos téléphones, de tout ce qui est fabriqué en Asie, en somme.
Ou une baisse de ce que vous mettez dans le téléphone. C'est-à-dire que maintenant, chaque téléphone, c'est comme un petit ordinateur d'il y a 10 ans. Quoi. C'est-à-dire que fait des trucs incroyables.
C'est 600 euros sur des iPhones.
Mais maintenant, on va peut-être commencer à sortir des téléphones qui auront, grosso modo, permettront d'appeler une autre personne. Quoi.
Les vieux téléphones, tu veux
dire.
Les
vieux téléphones, on va revenir. On va revenir en disant, écoutez, si vous voulez un téléphone à 50 euros, à 100 euros, à 200 euros, à partir de maintenant, on va baisser la quantité de produits à l'intérieur du téléphone. Donc ça va être une baisse du niveau de vie masquée. Parce que l'inflation, ça peut être une hausse des prix pour avoir la même chose, ou on t'en donne moins au même prix.
Oui, oui, bah, on a vu ça avec les carambars. Quand j'étais petite, ils étaient grands comme ça et ils coûtaient 20 centimes. Maintenant, ils sont grands comme ça et ils coûtent 20 centimes d'euros.
Voilà,
ils sont
ça.
Beaucoup plus petits. J'en ai beaucoup moins pour mon argent.
Et ils s'arrachent toujours les dents, quoi. Oui, celui
ça, non, mais ça, je pense que c'est un complot des dentistes. Hein. C'est un complot international des dentistes pour faire sauter les plombages et pour être sûr d'avoir du boulot.
Le carambar, c'est quand même une...
Ça et les caramels d'Isigny, je peux te dire, c'est un complot et on ne me l'autre a pas dit.
Non, mais c'est tout à fait vrai. Donc, l'inflation, c'est... Quand un gouvernement essaye de manipuler la valeur de sa monnaie pour ne pas payer ce qu'il doit. Bon. Et
c'est des gens bien quand même. Hein. Ils veulent pas payer ce qu'ils doivent, ils font des coups en douce, ils baissent nos taux pour que notre épargne ne soit pas rémunérée. Enfin,
ils arrêtent pas de nous.
On se sent bien géré quand même, on se sent aimé.
Mais on sent surtout, on sent qu'ils ont les bonnes valeurs, c'est ça le truc important, qu'ils respectent. Je signale que, encore une fois, il n'y a pour ainsi dire jamais eu d'inflation en Suisse. Pour ainsi dire jamais. Et je demande à tous les auditeurs, là, donnez-moi le nom d'un politicien suisse. Si vous connaissez le nom d'un politicien suisse, c'est que vous êtes un local, parce que il n'y a personne au monde qui connaît le nom d'un politicien suisse.
Donc, ils sont locaux, donc les locaux les connaissent, et sinon ils embêtent personne, ils font leur boulot.
Ils embêtent personne, et je crois que le président de la Confédération qui change assez fréquemment, il prend son métro tous les jours pour aller au bureau, quoi. Il n'a pas une caravane avec cette voiture. Il se prend pas pour Louis XIV, quoi.
C'est 8 wagons de CRS, une rue privatisée. Je pense à personne.
Non, je pense à personne. Donc, ça, c'est la première des choses. Alors, je voudrais faire un deuxième développement qui me tracasse, dont j'ai parlé hier d'ailleurs avec Anis. C'est que les gens qui nous dirigent sont en train, compte tenu des contraintes, des contradictions dans lesquelles ils sont collés, d'essayer de changer la nature de la monnaie. Pendant longtemps, ils essayaient de vous payer en monnaie de singe, donc en faisant baisser la monnaie. Bon. Aujourd'hui, ils sont même en train de changer la nature de la monnaie. Et ça, c'est quelque chose qui me tracasse beaucoup, parce que je vois pas... C'est un changement tel grand, tellement grand, presque, de civilisation, que je ne sais pas à quoi ça nous amène.
Ah oui, alors, c'est ce que vous expliquez hier. C'est-à-dire qu'avec Anis, vous avez expliqué que jusque dans les années 90, en fait, c'était les banques, quelque part, commerciales qui créaient la monnaie. C'est-à-dire que moi, j'avais une boulangerie, j'allais voir mon banquier, je lui disais, voilà, je voudrais ouvrir 2-3 autres boulangeries. On me disait, très bien. Par un jeu d'écriture, j'avais donc un prêt bancaire qui donc était une création monétaire puisque c'était un jeu d'écriture.
C'est-à-dire qu'au moment où la banque te faisait un prêt, il y avait de l'argent qui apparaissait dans ton compte.
Dans mon compte. Donc c'était une création monétaire. Mais elle était adossée à une entreprise réelle puisque moi j'allais ouvrir deux boulangeries.
Et tu allais rembourser.
Et j'allais rembourser à terme. Et j'allais prendre aussi ce risque parce que dans ma rentabilité, j'avais fait un business plan et il était écrit, enfin on avait calculé que étant donné le nombre de pains dans la vallée, ainsi de suite, on s'attendait à une rentabilité de 12%, 10% du capital. Quelque chose de...
Et donc, la monnaie qui était créée aujourd'hui, quand je la remboursais, elle était détruite.
Oui.
Et donc, il fallait qu'il y ait un autre gars qui vienne. Donc, à l'origine de la monnaie, il y avait une initiative individuelle. C'était médiatisé en quelque sorte par une banque.
Par une banque commerciale,
qui créait de la monnaie, qui ensuite je la remboursais, c'était détruit. C'était à la banque ensuite de trouver un autre gars qui avait un autre projet.
Donc il y avait un accroissement de la masse monétaire, mais pas trop rapide.
Et qui était en fonction des initiatives individuelles.
Voilà.
Qui étaient créées comme ça.
Changement après Bâle II, à peu près. Et là, la monnaie commence à être créée par la BCE. C'est-à-dire non plus
duo.
Par les duos. C'est-à-dire au lieu de faire un système qui était en gros bottom-up,
oui.
On commence à dire ça part d'en haut et duo ex nihilo, duo de ou sec machina, duo de leur grand savoir là-haut, ils décident.
Ils décident qu'ils vont acheter les dettes des États.
Non, alors ils disent à la banque.
À la place de faire un prêt, vous allez acheter l'obligation italienne.
Vous rachetez vos obligations, c'est-à-dire ils disent à la Banque de France, vous êtes gentil, vous allez me racheter cette obligation italienne, cette obligation allemande, et puis les vôtres, tiens, vous m'en rachetez.
Et à ce moment-là, la monnaie est créée comme ça tout en haut, elle va au gouvernement, et le gouvernement lui décide qu'il faut investir dans la boulangerie dans une vallée pyrénéenne.
Alors c'est ça le pire, c'est que le gouvernement ne décide jamais de le mettre dans une boulangerie, parce qu'avec les taux zéro, où va cet argent? Ça va à Bernard Arnault, qui lui a des immeubles, qui peut les donner en hypothèque, parce que le banquier, lui, face à deux prêts, il se dit, soit j'ai un gars qui veut monter en boulangerie, mais c'est une prise de risque, soit j'ai Bernard Arnault en face qui me donne en hypothèque un immeuble sur les Champs-Élysées, qu'est-ce que je choisis? Évidemment, l'immeuble sans risque.
L'immeuble sans risque, c'est donc le prix de l'immeuble qui existe déjà,
qui n'aura pas de création de valeur.
Il y aura création d'une valeur monétaire, l'immeuble vaudra plus cher, mais il n'y aura pas plus de mètres carrés. C'est toujours le même immeuble, il y aura toujours le même nombre de mètres carrés, ça ne sert à rien.
Ça n'a rien créé,
c'est ce qu'on appelait autrefois en droit un enrichissement sans risque.
Sans cause, pardon.
Un enrichissement sans risque est un peu la même chose.
Oui.
Un enrichissement sans cause. Eh bien, les enrichissements sans cause, c'était condamné par le droit. Donc aujourd'hui, la politique monétaire des taux zéro fait monter tous les enrichissements sans cause et empêche les boulangers de se développer.
Voilà.
Voilà, c'est à peu près ça à quoi on arrive. Mais c'est un changement total de la nature de la monnaie. La monnaie, autrefois, c'était quelque chose qui avait été créé par la base, qui était intermédié par un système bancaire.
Par les banquiers lombards.
Par les banquiers
lombards. C'était des jeux d'écriture, donc
c'était adossé
à une réalité concrète.
Et l'État, lui, vérifiait que le système bancaire ne faisait pas trop de bêtises. Donc, il y avait une espèce d'intermédiation. Il y avait une espèce de mélange entre le secteur privé et le secteur public qui faisait que ça marchait à peu près. Et que la monnaie, c'était ce qu'on pouvait appeler en théologie un bien commun. Mmh. C'était un bien commun, c'est-à-dire quelque chose dans le fond dont tout le monde devait se servir, mais qui ne devait être ni privatisé ni nationalisé.
Ça appartient à tous et à personne.
Et on doit surtout empêcher, un, que ce soit privatisé, parce que ça, c'est une très mauvaise idée, et deux, que ce soit nationalisé, parce que ça, c'est encore pire. Or, aujourd'hui, on est en train d'arriver directement à une nationalisation de la monnaie.
Une captation, et alors c'est pire.
Par l'État.
Par l'État européen.
Par l'État européen, c'est ça.
C'est-à-dire que c'est des gens
qui n'ont pas de légitimité,
qui ne sont pas élus, qui n'ont de compte à rendre à personne, qui décident pour nous, en gros, de toute la gestion de notre économie centrale.
Et qui font une espèce qui ressemble beaucoup à l'Union soviétique. C'est-à-dire l'Union soviétique aussi, les boulangeries n'existaient pas. C'était l'État qui décidait qu'on allait faire une fonderie ou une aciérie, et donc on le mettait là. Et puis pourquoi pas là? D'ailleurs, ils avaient mis à Cracovie, juste à côté de la partie historique de la ville qui était superbe, ils avaient mis une énorme aciérie juste pour faire braire les catholiques, parce que c'est là qu'il y avait tous les lieux. Donc la façon dont les investissements étaient faits était bizarre. Donc grosso modo, on est en train de passer insensiblement d'une monnaie qui est complètement... qui était une espèce de mélange difficile, mais qui marchait, arbitré entre l'État et le secteur privé, les particuliers. Bon, on ne savait pas très bien comment ça marchait, mais ça marchait plutôt bien. À quelque chose qui est très clair, mais qui ne marche jamais. Et donc, cette espèce de changement de nature de la monnaie me gêne beaucoup.
Surtout, moi, j'avais appris à l'époque, en droit public, il y avait les ordonnateurs et les comptables, quelque part. Celui qui prend les décisions ne peut pas être celui qui les vérifie, ainsi de suite. Or là, j'ai l'impression que dans leur système, à la BCE, les gars, ils décident d'imprimer de la monnaie, et puis il n'y a personne derrière. Parce qu'avant, tu parlais, il y avait la Bundesbank. Quand ils faisaient des bêtises, ça se voit. Mais là, à part le gouvernement chinois, s'ils font monter le yuan, enfin, ça peut prendre des années, sinon...
Il n'y a plus
de gendarmes.
Comme disait Pompidou, quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limites. On ne voit pas très bien ce qui les empêcherait. Donc,
mais c'est ce que disait Anis Lachavière, c'est qu'il disait, mais lui, il était donc, en tant que trader à des desks, et il disait, mais arrive la crise de 2008, on voit arriver des masses monétaires comme ça, en nous disant...
Montants monstrueux pour sortir les gars des positions perdantes.
Et de plus en plus. C'est-à-dire, on se dit, non, mais là, OK, c'était un one-shot, la prochaine fois, mais pas du tout.
Il recommence, et double.
Et là, ça en vient à des trucs. Et quand, humainement, tu dis, non, mais là, ça va beaucoup trop loin, tu dis, non, mais fais confiance au marché, et ainsi de suite.
Mais il n'y a plus de marché.
Mais il n'y a plus de marché.
Oui.
Il n'y a plus.
Y a
ça
plus.
devient n'importe quoi. C'est les types, ils savent même plus ce qu'ils font. Je ne sais pas s'ils savent ce qu'ils font.
Non.
Donc ça fait très peur. Donc est-ce que tu penses qu'un particulier, puisque là, on a presque des faux prix sur l'immobilier.
Ah ben on a des prix qui sont complètement bidons. Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est en train de remplacer la monnaie, qui était un truc qui servait dans des transactions réelles et qui allait être remboursée, donc détruite à terme, ce qui permettait...
Oui, il y avait une légitimité, il y avait une logique.
Il y avait une logique de marché qui fonctionnait. On est en train de remplacer ça par des bons d'achat de chez Carrefour. On vous donne chez Carrefour le droit d'acheter pour 500 euros par semaine. Mais il n'y a plus de création destructrice. Puisque autrefois, celui qui ne pouvait pas rembourser ses dettes, il sautait. Donc les actifs étaient rachetés lors d'une vente aux enchères, au tribunal de commerce, par des gars qui étaient prêts à reprendre ses actifs à 20%. Ça permettait au système
ce que de s'épurer toujours, et puis
De repartir en avant.
Il y avait une étincelle.
Comme me disait un de mes amis au Canada, il me disait, en ce qui concerne une station de ski, il faut toujours acheter après la troisième faillite. Parce que les deux premières, en principe, le type, il perd tout ce qu'il valait. Et puis ensuite, à la troisième, on peut commencer à acheter. Ça commence à être... C'est-à-dire qu'on achète à 10 cents du dollar, et puis on gagne sa vie comme ça. Mais c'est comme ça que fonctionne le capitalisme. C'est ce que je dis toujours. Le capitalisme sans la faillite, c'est un peu comme l'Église catholique sans l'enfer. Ça se vend mal, quoi. C'est pas un produit qui vend facilement. Et donc, aujourd'hui, ils ont fait un système qui permet à toutes les entreprises qui devraient disparaître de survivre et qui empêche les entreprises nouvelles littéralement de se créer.
Alors ça, je préfère te dire, les gens ne comprennent pas. Les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi il est nécessaire qu'il y ait des faillites, parce que, évidemment, dans l'esprit collectif, bah, une faillite, c'est triste.
Mais c'est toujours triste.
Voilà.
C'est un
Mais
pauvre.
Il faut que les gens arrivent à comprendre, et c'est ce que tu dis, que quelquefois, eh ben, malgré tout, quand un business model n'est pas bon, quand une idée n'est pas bonne, eh ben, il ne faut pas s'entêter. Et puis quelquefois, il y a des gens qui se lancent, on a tous vu, hein, moi j'habitais quand j'étais étudiante à Cambronne, et il y avait sur la place une boulangerie. Ben, elle était dégueulasse. Et on faisait tous 10 km plus loin pour aller à la Gauloise, au moulin machin truc de la Vierge, pour aller acheter un pain qui était décent. Et honnêtement, elle méritait de faire faillite, cette boulangerie. Elle n'était pas bonne. Elle
ouais.
a fini par faire faillite. Et ce n'est pas que c'était bien fait, mais c'était légitime. Elle n'était pas bonne. Elle ne rendait pas un bon service.
Ben, c'est...
C'était du pain congelé. C'était pas bon, rien n'était bon. Bon, bah, il faut que le système s'épure.
Il faut que le système s'épure. Et puis, je reviens toujours à mon exemple de la diligence. C'est pas parce que vous feriez aujourd'hui des diligences de bonne qualité, bien isolées, que la diligence a un intérêt. C'est fini, la diligence. Et c'est ce qui se passe. Regardez un truc. Moi, quand j'ai parti pour Londres, j'ai découvert avec ravissement un ou deux ans après, donc ça devait être en 82-83, le fax.
Ah oui.
Et donc, j'ai installé un fax entre mon bureau à Paris et mon bureau à Londres. Les deux machines devaient être les mêmes. C'était sur une espèce de papier électrique.
Oui, c'était papier thermique.
Du papier thermique. Et puis, on écrivait. C'était dégueulasse et tout, mais c'était incroyable parce que ça me permettait de communiquer avec mon bureau. Ça n'existe plus.
Non, les fax, bah non,
il n'y a plus de fabricants de fax. Il n'y a plus de fabricants. C'est un truc qui a complètement disparu. Ça a été un boom incroyable.
Alors
ça.
Figure-toi, il en reste encore parce que pendant très longtemps, les jurisprudences n'acceptaient pas comme preuve, les tribunaux, le mail comme une preuve de réception. Donc on avait encore des fax pour envoyer les choses à date, pour ouais, montrer qu'il y avait... Bon.
Mais c'était une survivance historique.
Comme les Telex.
Comme les Telex, ou comme il y avait autrefois les pneumatiques à Paris, c'était une espèce de système à air comprimé qui se baladait dans Paris, on mettait un truc, ça allait... Enfin bref, c'est des machins qui ont disparu, ou le Minitel, j'imagine le Minitel, ça a disparu.
Oui, mais ça fait un peu peur, parce que là, j'ai vu la semaine dernière, Jean Castex nous vendre cette grande idée aussi de retour des trains couchettes.
Oui.
Alors, les trois quarts des auditeurs, vous n'avez pas connu, mais je peux vous dire que moi, j'ai connu les trains couchettes. Ça pue la chaussette. On est 6 là-dedans, dans 15 mètres cubes, sur un truc qui fait 70 cm de large sur 1,80 m de long.
Et s'il y en a un, moi, ça m'a, parce que je prenais ça tout le temps pour quand je cherchais du boulot de Toulouse à Paris quand j'étais jeune, j'allais dans la capitale pour aller chercher du travail. S'il y en avait un qui ne s'était pas douché depuis quelque temps, et ben.
Voilà, qui avait une notion alternative de l'hygiène, tout le monde en profitait dans le wagon.
Tout le monde en profite dans le wagon. Non, mais je veux dire par là, ça, c'est exactement le coup du.
Je parle même pas des punaises de lit.
Non, mais ça, c'est exactement le coup du haut fonctionnaire qui dit, dans le fond, la solution, c'est quand même de revenir au passé, parce que là, on avait beaucoup d'emplois. C'est ce qu'avait dit, je crois, Alfred Sauvy à Mitterrand. Alfred Sauvy, qui était un grand homme, un grand économiste, visitait un travaux public avec Mitterrand. Et Mitterrand voyait les gars avec des pelleteuses, là, des pelleteuses. Et avait dit, vous vous rendez compte, s'ils avaient des pelles, le nombre de gars qu'on pourrait embaucher. Et Sauvy lui avait dit, monsieur le président, s'ils avaient des petites cuillères, ce serait encore mieux, quoi. Donc, ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que c'est un recul et donc une baisse de la productivité. Et si on veut remettre des trains-couchettes, il faut repayer ce qu'ont payé les employés de la SNCF il y a 40 ans, quoi. Et trouver des gars qui vont le faire à ce prix-là, il n'y en aura pas, quoi. Donc, c'est une imbécilité logique, c'est de dire qu'il faut remettre plein de gens dans la campagne et arrêter tous les
produits. Refaire travailler les enfants, c'est bien.
Refaire travailler les enfants.
Refaire travailler les femmes à moitié du salaire des hommes, aussi.
Exactement, parce que là elles trouveraient du boulot.
On pourra glaner le blé derrière, arrêter les machines.
Arrêter les machines et on va se retrouver 95% des gens dans l'agriculture. Et
on arrivera à nourrir qu'un quart de la population.
Et il y aura des familles.
Et donc, ça va être parfait.
Ça va être parfait. Donc encore une fois, le progrès technique, c'est pour ça que, aussi curieux que ça paraisse, l'entrepreneur n'est jamais populaire. Parce qu'il fait braire. Il fait braire le type qui arrive avec une idée, comme par exemple, je vais foutre en l'air le Minitel. Il est détesté par tous les fabricants de Minitel, tous les gens qui travaillent dans le Minitel, tous les gens qui servent du Minitel. L'entrepreneur, c'est le vrai
Libération,
révolutionnaire.
Les Minitel roses.
Voilà. C'est le vrai révolutionnaire. C'est-à-dire le gars qui, d'un seul coup, change tout. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'on a eu depuis 2-3 siècles révolution après révolution technologique et que il n'y en a pas une qui ait été acceptée par les révolutionnaires socialistes. C'est jamais eux qui les ont initiés. Et ensuite, dès qu'il y avait quelqu'un qui les initiait, ils leur tapaient dessus en disant « Mais qu'est-ce que c'est ? Mais vous créez du chômage. » Donc, la base du socialisme, c'est la stagnation technologique.
Alors que c'est quelque chose qu'on reproche à tort aux conservateurs qui, soi-disant, dans l'esprit courant, serait justement quelqu'un accroché au passé. Or, c'est pas vrai.
C'est le socialiste qui est accroché au passé. C'est le socialiste qui vous parle des congés payés de 36 et des... Et ils aimeraient que les Français reprennent leur bicyclette et aillent se promener le long des...
De la Marne.
De la Marne, ça serait bien. Donc, encore une fois, et c'est là où la monnaie était très importante pour revenir, c'est que l'entrepreneur, c'était celui qui réussissait à transformer de la monnaie en quelque chose de... en activité. Or, aujourd'hui, on essaye de transformer l'État, essaye dans le fond de maintenir en vie des activités qui devraient mourir en créant de la monnaie ex nihilo. C'est plus en quelque sorte le boulanger des Pyrénées qui décide qu'il va ouvrir deux autres boulangeries dans les deux vallées à côté pour... Voilà. C'est la préfecture des Hautes-Pyrénées qui va décider qu'il faut envoyer de l'argent à toutes les boulangeries en fonction du nombre de pains qu'ils font, et non pas en fonction de savoir, comme je disais tout à l'heure, si le pain était bon ou pas. Ça, c'est une notion qui ne les intéresse pas. Les paysans, ils vont recevoir du fric en fonction du nombre de quintaux de blé qu'ils font, mais si c'est un blé dégueulasse avec lequel on ne peut rien faire, ça, ils n'en ont rien à foutre. Donc, automatiquement, on perd le contrôle de la base sur ce que la base veut consommer. C'est-à-dire, on dit à la base, écoutez, on va vous envoyer du blé, et des merdes indésirables, qu'ils soient bons, qu'ils soient pas bons, on n'en a rien à foutre, c'est pas notre problème. Vous aurez du blé. Mais c'est pas ça, la liberté. La liberté, c'est de choisir entre un bon blé et un mauvais blé, quoi. Donc, cette espèce d'atteinte à la liberté de choix en manipulant la monnaie...
En fait, les gens n'ont pas conscience de ça, parce que quand tu es un néophyte et que tu regardes le système de l'extérieur, avant que tu nous expliques ça... Bon, déjà, c'est très difficile de percevoir l'importance souveraine de la monnaie. Et là, quand tu le décris comme un phénomène de choix et de perte de liberté, je ne sais pas si les personnes physiques ont cette capacité de compréhension à terme, quotidienne, de se dire, en fait, je perds vraiment sous l'état. Alors comment, maintenant, essayons de positiver, comment on peut s'en sortir là? Comment on peut faire en sorte, bon, de récupérer un peu cette souveraineté. Et surtout, là, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arrêter? Bon, il faudrait arrêter d'imprimer. Là, il
Mais
faudrait que la BCE arrête ses conneries.
il faudrait que la BCE. Mais en même temps, comme on a des faux prix à cause de l'euro, comme on a des faux prix, ils ont.
On pourrait s'en sortir là qu'en reprenant
Il
notre
faut
monnaie.
retourner, il faut retourner, il faut retourner au vrai prix, c'est-à-dire il faut retourner au fait que le travailleur français coûte la même chose que le travailleur allemand, et comme nos coûts sont de 30 ou 40% supérieurs, eh ben, il faut que, ben, grosso modo, notre monnaie baisse de 30 ou 40% vis-à-vis de la monnaie allemande. Et
Donc
ben, on
ça ne
achètera
serait
moins, on achètera de moins de voitures allemandes.
ça ne c'est ça c'est possible qu'avec un Frexit, qu'avec une sortie de la France de la zone monétaire européenne.
Européenne, il faut le, ce je crois que le péché mortel qui a tué l'économie mondiale, c'est l'euro. Parce que d'un seul coup, il y a la moitié de la population européenne qui est entrée en dépression, qui est depuis 20 ans. La production industrielle italienne, aujourd'hui, elle doit être au niveau où elle était en 82-83. C'est-à-dire qu'on a perdu 30 ans. Donc, bien sûr, ils ont des excédents des comptes courants, mais quand tu vis dans la pauvreté, ben évidemment que tu es en excédent, parce que
Bah oui,
tu peux perdre d'abord
si
personne.
tu vas acheter.
Que tu vas d'abord, tu peux rien acheter, t'as plus de revenus, donc tu achètes plus d'importations et tu continues à exporter. Donc c'est-à-dire cette espèce de hubris qui a décidé, qui a amené ces gars à créer un monstre monétaire dont personne n'avait besoin. J'ai toujours dit que l'euro c'était une solution à la recherche d'un problème quand ils l'ont créé, et maintenant c'est devenu le problème, c'est ce qui
Mais je crois
maintient
pas.
sous.
Je ne crois pas que ça soit de l'hubris, je crois que c'était une façon de prendre le contrôle des pays. Puisque
C'est
quand même le
possible.
but, c'est d'arriver à un fédéralisme outré avec un gouvernement qui ne sera plus élu, sur lequel nous n'aurons plus aucune gouvernance, et c'est une façon pour eux de prendre le pouvoir quand même, l'argent, enfin la monnaie.
Oui, c'est-à-dire que ce que tu dis est très intéressant parce que c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais on va le
Non, mais
traiter.
je crois que c'est fait sciemment.
C'est fait sciemment, mais on va le traiter en disant ça, c'est que la base de la démocratie, c'était la souveraineté populaire, ou en quelque sorte, le peuple est le souverain. C'est lui qui décide, bon, et on fait des élections. Mais si tu fais une fédération comme l'Europe, où tu te mets à contrôler la monnaie d'un côté, et de l'autre côté, tu te contrôles des tribunaux qui sont extra-nationaux,
Territoriaux?
à ce moment-là, si tu contrôles et les tribunaux et la monnaie, t'as plus besoin du peuple. Tu dis, vous devez respecter le droit. Mais attendez une seconde, le droit qui est décidé par ces cours, mais attendez, qui les a élus? Quelle légitimité ont-ils? Non, non, mais le droit est toujours. On était en train d'essayer de nous imposer un gouvernement par les juges. Et non plus un gouvernement. Le peuple aujourd'hui en Europe n'est plus souverain. Chaque peuple n'est plus souverain. C'est maintenant la Cour de justice européenne ou la Cour des droits de l'homme européenne qui sont les souverains et qui décident de ce que les soi-disant souverains vont accepter. Et si tu contrôles la monnaie, et si tu contrôles les tribunaux, tu peux laisser de côté toute démocratie. Et c'était ça le projet. Je crois que c'était le projet d'ailleurs de Jean Monnet, il s'en est jamais caché. Il a toujours dit qu'il détestait la démocratie.
À l'inverse de Gasperi
De
et
Gasperi
Adenauer.
ou des. Donc, ce contrôle de la monnaie, c'est une tentative de recréer une espèce d'Union soviétique molle.
D'empire romain.
D'une espèce d'Union soviétique molle, un truc. Il n'y a pas de souveraineté s'il n'y a pas de monnaie nationale. Puisque la monnaie nationale, c'est là-dedans qu'on lève les impôts pour payer les fonctionnaires locaux. Et ben, si on doit en prélever beaucoup pour payer les fonctionnaires locaux, ben, ça veut dire que la monnaie. Bon, il y a des tas de gens qui travaillent de façon différente que si c'était dans un système capitaliste pur, et ben, la monnaie sera sans doute plus faible que la monnaie où il y a moins de fonctionnaires. Mais ce n'est pas possible autrement. Donc si la volonté du souverain, c'est d'avoir beaucoup de fonctionnaires, ce qui est le cas de la France, ben, on ne peut pas avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. On ne peut pas vouloir avoir une monnaie forte et 50% de la population qui travaille pour l'État. C'est pas possible. C'est pas. Donc, ce qui est très surprenant, c'est à quel point les gens ne voient pas les contradictions de leur propre désir, en quelque sorte. Ils veulent une chose et son contraire à la fois. On apprenait en logique autrefois qu'on ne pouvait pas vouloir à la fois.
Non, attends, c'est pas les gens, c'est les politiques.
C'est les politiques, mais on n'arrête pas d'essayer de les amener dans des positions contradictoires dont ils ne peuvent pas sortir. C'est-à-dire qu'ils sont, on les amène dans des positions schizophrènes, et là, ils deviennent fous. En leur disant, c'est trop compliqué pour moi. Moi, c'est pas compliqué du tout.
Moi, j'ai l'impression plutôt que dans le débat public, on nous amuse avec des choses vraiment pas utiles, du style Macron va voir McFly et Carlito ou l'hymne de Youssoupha. Moi, j'y vais pas sur ces trucs-là, parce que je me dis, c'est des hochets. Ils savent très bien ce qui nous agite devant. Et pendant ce temps-là, on s'occupe pas des vrais problèmes. Et les vrais problèmes, encore une fois, c'est la perte de cette souveraineté monétaire. C'est ce qu'ils font pendant ce temps-là à la BCE. Et on nous agite des micro-problèmes qui, honnêtement, ne servent à rien. Et je pense qu'on devrait, à droite en tout cas, réfléchir un peu plus loin que ce qu'on veut bien nous donner comme bribes à discuter dans les médias. Il faut sortir de ça. Et à chaque fois qu'on nous agite ces trucs-là, réfléchir en disant, OK, ils nous agitent ça, c'est quoi la vraie question? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans notre dos pendant ce temps-là? Parce que c'est ça qu'ils font.
C'est tout à fait exact. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye à faire à l'Institut des Libertés, en vous disant, ça, c'est important, et ça, ça l'est pas. Donc on vous dit,
l'hymne des Bleus, déjà, on s'en fout, hein, parce que qui écoute ces chansons, bon. Ensuite, que Youssoupha, je sais pas quoi, le chante, on s'en fout aussi, parce que de toute façon, alliez-vous l'acheter, l'hymne des Bleus? Non. Donc pourquoi on en parle? Pourquoi on en parle? Pourquoi on décide de s'exciter sur ce truc-là? On s'en fout, c'est moisi. Ne l'achetez pas, c'est la meilleure chose que vous pourriez faire. Et après que l'autre...
Coupez la télévision et la radio s'ils en parlent.
Coupez la télévision et la radio s'ils en parlent et parlons d'autre chose. Dieu du ciel, parlons d'autre chose.
Voilà, il faut commencer à parler des vrais problèmes, et c'est pour ça que l'Institut des Libertés va se donner un mal de chien, je l'annonce, mais ça va finir par arriver.
Attention
Ça finira
par arriver. Ça arrive. Vous savez, c'est comme quand maman se retourne, je vous préviens, la prochaine fois, ça va tomber.
Il va arriver, c'est que il faut que vous, individuellement, repreniez le pouvoir par l'intermédiaire du référendum d'initiative citoyenne, ou populaire, ou l'appelez comme vous voulez, ou de la démocratie directe. Parce que ces gens-là n'arrêtent pas de vous amener devant vous des sujets qui n'ont aucune importance dans l'espoir que vous allez vous mettre sur la gueule. Prenons l'exemple de Youssoupha, que je ne connais pas d'ailleurs. Il me semble évident
que... Je ne connais pas ses parents non plus.
Il me semble évident que le but, c'est de faire réagir Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, qui se mettent à pousser des cris. Ça n'a strictement aucun intérêt. Ça n'a strictement aucun intérêt. C'est de la poudre aux yeux pour vous empêcher de réfléchir sur sur quoi vous devriez réfléchir, c'est comment vous redevenez un citoyen normal.
Donc, qui se pose les bonnes questions et qui agit.
Et qui agit. Donc il va falloir, dans les mois qui viennent, que l'Institut des Libertés, on y travaille, monte un vrai programme sur des idées. Il y en a marre de savoir si je dois voter pour M. Bertrand, Mme Pécresse, Mme je sais pas quoi, ou Monsieur je sais pas quoi. Ça n'a strictement aucun intérêt. Il faut que le débat politique en France redevienne un débat d'idées sur des idées fondamentales. Et je ne crois pas une seconde que ce qu'on est en train de nous préparer pour l'élection 2022, ce soit un débat d'idées. Ça va être encore un débat entre est-ce que vous préférez le crétin de gauche ou le crétin de droite, ce qui n'est pas...
On s'en fout des droites, gauche. C'est penser souveraineté, penser vos enfants, et le reste, on s'en fout. Laissons ça de côté, et le bruit des bottes, Dieu du ciel, on arrête aussi avec ça, parce qu'on n'en peut plus, on n'en peut plus. Moi, je ne peux pas refaire une histoire Macron-Le Pen, hein. Je ne peux pas, ça va être trop pour moi, hein. Je vais émigrer en Suisse. Hein. Je vais faire mon permis de tir, ou j'en sais rien, mais on n'en peut plus.
Mais c'est ce qu'il faudra faire à terme. Bon, donc, bon, voilà. On a un petit peu déraillé, mais parce que la question de la monnaie essentiel à l'identité et à la souveraineté. Et ce sont les deux choses dont nos ennemis, parce qu'il faut les appeler par ce titre, ne veulent pas parler. L'identité française et la souveraineté française sont deux choses qu'ils refusent même d'envisager ou de traiter. Donc, il ne faut parler que de ça.
Voilà. Si vous voulez bien les enquiquiner, vous parlez toujours identité, souveraineté, et vous ne lâchez rien. Et si un sujet ne parle pas d'identité ou de souveraineté, vous n'en parlez pas, parce que ça ne nous intéresse pas. Voilà, c'est tout. Et on est très content d'avoir fait aujourd'hui cette dernière capsule. Enfin non, c'est pas la dernière, cette dernière de fait, mais ce ne sera pas la dernière.
Peut-être qu'il y en
Avec.
a qui espèrent que ce sera la dernière.
Eh ben non, on continue. Et avec le directeur financier qui était plutôt sage, même si,
Enfin.
oui, bon, il a bien ronflé, je ne sais pas si on l'a entendu, mais il nous a fait un petit concert là. C'est quelque chose. Voilà, écoutez, merci beaucoup de nous suivre. Et la semaine prochaine, on n'a pas décidé de quoi on allait parler la semaine prochaine, alors dis donc. Bon, on va trouver. D'ici à la semaine prochaine,
D'ici
on
à
va
la
vous
semaine
trouver un
prochaine,
sujet sympa
on va essayer de
sur lequel
trouver.
on pourra bien vous engueuler. Et d'ici là, écoutez, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires en bas. Évidemment, de regarder la chaîne de l'Institut des Libertés où on vous a préparé des nouveaux invités qui vont être géniaux. J'en suis ravie, mais je garde la surprise. Et voilà, prenez soin de vous et à très bientôt.
Et merci beaucoup.
Merci beaucoup.